Backstage le podcast, ce sont Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien supérieur du son. Ils nous font découvrir les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Retrouvez, si vous le souhaitez, l'ensemble de leurs podcasts sur leur site backstagelepodcast.com, tout attaché en minuscules, backstagelepodcast.com. Et aujourd'hui, second épisode de l'entretien avec l'éditrice Sabine Vespizer, au micro donc de Margot Delpierre, sur un montage et un mixage de Thomas Langlin. Je rappelle que cet entretien fut enregistré en novembre 2020.
Vous n'avez jamais eu la tentation de vous agrandir ces 20 dernières années depuis que vous êtes à la tête de votre maison d'édition, parce que comme vous le disiez, on parlait de Diane Meur, mais on peut parler de Léonore de Récondo. Il y a quand même de très jolis succès. Vous avez reçu, vos auteurs ont reçu quelques prix. C'est une maison qui a beaucoup grandi, qui est très respectée. La tentation de s'agrandir, jamais?
Jamais. Jamais. Moi, j'aime trop faire mon métier comme je le fais. Jamais, parce que je n'ai pas envie de déléguer ce que j'aime. Ce qui me donne de l'énergie matin, ce qui me fait mettre les doigts dans la prise, ce sont les textes. Si je m'agrandissais, je serais obligée de m'éloigner des textes. Or, c'est la raison pour laquelle j'ai créé une maison, c'est pour m'en rapprocher. Et j'estime aussi que le temps est notre principal allié. J'ai vraiment toujours voulu construire cette maison avec pour allié le temps. Les titres qui se vendent permettent de prendre des risques sur des livres plus difficiles. Les bonnes années permettent de tenir sur les mauvaises années. Heureusement, l'année dernière, en effet, a été une bonne année. Edna O'Brien a remporté un Femina pour l'ensemble de son œuvre. Louis-Philippe d'Alembert a été finaliste du concours des lycéens. Enfin, on a eu vraiment une année formidable. Et cette année-là a permis plus ou moins de tenir jusqu'à aujourd'hui, où ça devient vraiment plus périlleux, dans une année avec 2 mois de fermeture de librairie, de confinement et des livres qui n'ont malheureusement pas vraiment décollé. J'ai le sentiment que je fais mieux mon métier maintenant que j'approche la soixantaine que je ne le faisais même en créant ma maison à 40 ans. Et je ne sais pas si je vivrai aussi longtemps que Maurice Nadeau, mais je pense que Maurice Nadeau était certainement un éditeur plus affûté, plus sûr de ses goûts, de ses choix à 103 ans qu'il ne pouvait l'être à 30. Et Dieu sait qu'à 30, il était déjà très brillant. Mais voilà, donc je crois que le temps, en tout cas dans tous les métiers qui ont à voir avec la lecture, donc avec l'accumulation d'expérience, avec la réflexion, avec la sensibilité, je crois que le temps est notre principal allié. Pour les écrivains aussi d'ailleurs, et c'est ça qui me porte aussi et qui m'émeut, quand je vois qu'un auteur dont j'ai publié le premier roman il y a 20 ans, comme Diane, est devenu un écrivain reconnu. Et ces écrivains-là, qui au fil des années publient leurs textes, rencontrent des lecteurs, s'inventent eux-mêmes écrivains. Et ça, c'est assez beau. C'est-à-dire, on n'est pas écrivain quand on a publié un premier roman. On a du talent. Mais je trouve toujours très émouvant de voir comment les jeunes écrivains se rendent compte de leur responsabilité face à des lecteurs, face au plaisir, à l'attente, au bonheur qu'ils suscitent chez d'autres. Et évidemment, ça, ce temps qui passe à rencontrer des lecteurs, à se rendre compte que ce qu'on écrit, ce qu'on produit, ce qu'on pense, ce à quoi on trouve une forme, parce que la littérature, c'est quand même toujours une forme, a suscité de l'émotion chez d'autres. Et ça, évidemment, c'est une réalité qui prend corps à travers au fil des années, bien sûr.
Vous avez combien de salariés dans votre maison d'édition?
J'ai 3 salariés plus moi, donc on est 4.
C'est tout petit.
C'est tout petit.
Ça veut dire que tous les manuscrits, à chaque fois que vous en recevez, passent par vous. Est-ce que vous lisez tout?
Je regarde tout. Je regarde tout. Je ne délègue jamais ça. Pour une raison très simple, c'est qu'on est toujours. J'ai été formée à l'édition par Hubert Nissen chez Actes Sud. Et je me souviens très bien d'un jour où j'avais trouvé extrêmement malin de déléguer ce qu'on appelle le dépotage dans l'édition à une stagiaire.
Et c'est quoi le dépotage?
Le dépotage, c'est on ouvre les manuscrits le matin et on regarde. Et on regarde et on lit. Alors, on lit jusqu'à. Hein, ça aussi, c'est un terme de jargon.
Vous pouvez en recevoir beaucoup?
On en reçoit. Moi, ma lettre type dit qu'il m'arrive de recevoir 10 manuscrits par jour ouvrables. alors même que je publie 10 livres par an. Vous comprendrez, monsieur, madame, qu'il m'est impossible de donner à chacun une réponse personnelle, ce qui est évident aussi, enfin bien sûr. Mais dans ce dépotage, évidemment, ça va parfois très vite, parce que maintenant, avec les techniques de reprographie, je veux dire, les gens envoient tout à tout le monde. Ma foi, moi je reçois des romans policiers, des recettes de cuisine, des essais, donc ça évidemment. Honnêtement, la lettre d'accompagnement avec le type qui se photographie à côté de sa Ferrari, moi je dis non, merci.
C'est pas le genre de la maison
parce que ça dénote une espèce de mégalomanie, enfin quelque chose qui m'intéresse assez peu, enfin la littérature comme moyen de parvenir, on va dire ça. Et puis après, je dépote, c'est-à-dire je regarde 5 pages au début, 5 au milieu, 5 à la fin, et je vois tout de suite si ça me correspond pas. C'est une rencontre. Moi, je ne porte aucun jugement sur les textes que je refuse. Je dis simplement que c'est pas quelqu'un avec qui je vais pouvoir vivre longtemps. Enfin, c'est pas quelqu'un avec qui. C'est pas un texte sur lequel je vais pouvoir me poser au long cours. C'est-à-dire que moi, quand je choisis un texte, je le relis plutôt 5 fois qu'une.
Et qu'est-ce que vous recherchez alors ? Est-ce qu'il y a des choses précises ou est-ce que vous pouvez pas me répondre précisément parce que justement c'est une rencontre et ça s'explique pas toujours ?
C'est difficile pour un éditeur de définir son catalogue parce que c'est un peu son portrait chinois. Donc j'aime beaucoup quand mes auteurs définissent mon catalogue et Michel Lèbre l'a fait récemment dans une librairie où nous sommes allés à la belle librairie des Marais à Villefranche-sur-Saône et en disant que c'était un catalogue qui incarnait toujours le désir du monde, le désir de savoir ce qu'il en était, enfin, ailleurs. Et puis, après, en effet, quelqu'un m'a un jour fait remarquer qu'il était beaucoup question de frontières, d'exil, d'indépendance, de liberté, qu'il y avait beaucoup de femmes dans ce catalogue. Quelqu'un d'autre me disait, c'est pas tellement étonnant que tu publies des textes d'horizons aussi divers. Tu es né sur une frontière. Oui, je suis né en Alsace. Donc, oui, j'aime bien avoir un œil ouvert sur le monde. Et puis, ce qui me détermine quand je choisis un texte, c'est évidemment cette, là, c'est la prof de lettres classiques qui revient, mais c'était cette absolue harmonie entre la forme et le fond. L'idée que la forme produit du sens. L'idée que un texte, c'est l'aventure d'une langue pour produire du sens, bien sûr. Je publie beaucoup en langue française, mais beaucoup en langue française qui s'écrit ailleurs qu'en France. Ça m'intéresse beaucoup. Cet endroit, précisément, où la langue se tisse entre deux imaginaires, entre deux cultures, parfois entre deux langues. Quand Yannick Lahens ou Louis-Philippe d'Alembert, qui sont haïtiens, écrivent en français, il y a du créole dans leur français. Je ne veux pas dire par là qu'il y a des mots de créole, ça peut arriver. Mais il y a une histoire de la langue française écrite en Haïti. Il y a une histoire de la littérature haïtienne au 19e siècle. Haïti a été un pays libre et indépendant depuis 1804. Première colonie à s'être affranchie, l'ont payé suffisamment cher et le paye encore très très cher. Mais donc oui, dans leur texte, il y a un autre imaginaire dont je citais Dima Abdallah qui est libanaise. Il y a évidemment une manière d'écrire le français où l'on sent la mélopée que l'on peut lire dans la poésie arabe. Quand Diane Meur écrit en français, on n'oublie jamais qu'elle est belge. On n'oublie jamais qu'elle est belge parce qu'elle a cette ouverture.
On parlait de refus. Est-ce que c'est parfois délicat de dire non à un auteur ou pas ?
Ça peut être très délicat de dire non à un auteur qu'on a déjà publié. Moi, j'ai tendance à accompagner mes écrivains dans tout leur chemin et à leur laisser la possibilité d'un texte plus faible, tout en leur disant « Est-ce que tu es sûr ?» Mais quand je sens que oui, ce texte, ils ont besoin de le publier, je le publie. Mais il m'est arrivé aussi de dire à un ou deux auteurs, dont je ne citerai pas les noms, que ce texte les desservait, que j'estimais que c'était beaucoup trop faible, que c'était impossible, etc. Et les deux, d'ailleurs, ont dit « On te fait confiance ». Tu as raison, je les mets dans un tiroir et je mets autre chose. Pour me dire quelques années plus tard, tu avais raison, ou je vais retravailler ce texte-là. Ça, c'est difficile, mais c'est aussi la garantie d'une relation de confiance. Aujourd'hui, j'ai publié 190 livres, en gros, et il y a une soixantaine d'auteurs actifs et des auteurs qui gravitent autour de la maison, et j'ai vraiment à cœur de d'avoir cette vie de maison. Donc, les écrivains se connaissent entre eux, se parlent. Enfin, voilà, ça crée une petite galaxie. Donc, c'est très important aussi que dans ces relations qui deviennent très vite affectives, de garder toujours cette autorité au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que je puisse être garante de d'un texte. Donc que les intermittences affectives ne viennent pas d'une certaine manière polluer ma lecture et qu'un écrivain sache que quand je lis son texte, c'est pour son texte, c'est pas parce que je l'aime bien lui. Et ça c'est très important. Donc de savoir refuser un texte à un écrivain qu'on respecte et qu'on admire, c'est difficile, mais c'est aussi important dans la confiance, dans la relation de confiance, pour maintenir cette relation de confiance entre nous.
Le refus, c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer dans votre relation avec les auteurs ?
Ça peut être une étape, mais c'est rare, parce que finalement, quand ils sont auteurs, c'est parce qu'ils ont été acceptés et qu'ils sont là. Voilà, après, non, c'est pas difficile, les relations avec les auteurs, c'est... Ce qui est parfois difficile, c'est d'arriver à leur faire comprendre à quel point ce monde de l'édition est devenu violent. Et à quel point on fait, ma petite équipe et moi, tout ce qu'on peut pour les défendre. Mais
C'est-à-dire violent ?
Violent, parce que c'est violent de publier un texte dont personne ne parle et qui ne se vend pas. Ça arrive quand même. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, bien entendu. Donc ça, c'est très violent pour un écrivain qui a passé deux ans de sa vie à tout donner sur un texte et à se retrouver face à une espèce de silence. Donc ça, c'est très difficile. Donc la manière dont j'essaie de pallier ça, c'est en étant extrêmement transparente. Les auteurs ont toujours su. J'ai des chiffres, moi, tous les matins. Je leur communique, je leur en fais part, je leur dis quand c'est difficile, quand les réassorts sont mauvais, quand il y a des retours. Enfin, c'est très important qu'ils le sachent et qu'ils sachent que on a vraiment fait ce qu'on a pu, mais que c'est compliqué. Après, ce qui est parfois difficile, c'est quand vos propres exigences ne sont plus celles de l'auteur. C'est-à-dire quand l'auteur a envie d'autre chose que d'une maison qui lui casse les pieds sur la forme, etc. Et là, dans ces cas-là, peut décider de s'en aller. Il y a toujours des épisodes compliqués dans des relations auteur-éditeur. Au quotidien, moi, j'estime que c'est extrêmement important de garder ce plaisir de travailler ensemble, ce désir de travailler ensemble, cette fluidité, parce que on est sur le même bateau. On est un écrivain qui publie chez moi, c'est que j'ai autant besoin que lui que son livre marche. Et que je suis aussi malheureuse que lui quand il ne marche pas. Parce qu'il y va de la survie de ma propre maison, de cette aventure qui se mène depuis presque 20 ans. On a plutôt tendance à faire front ensemble, c'est certain.